Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus, que vous soyez sur la planète. Installez-vous, c'est le débat du jour.
RFI.
Les femmes françaises travaillent gratuitement depuis mercredi dernier, le 3 novembre, alors que les hommes, eux, seront payés jusqu'à la fin de l'année. Dit comme ça, ça interroge. C'est surtout une manière d'évoquer les inégalités salariales en France. Cette date du 3 novembre est calculée par le collectif féministe Les Glorieuses à partir de données officielles sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Pourquoi une telle injustice? Le travail des hommes vaut-il plus que celui des femmes? D'où vient cette discrimination? Comment se fait-il que le problème n'est toujours pas résolu? Quelles sont les solutions pour y remédier? Faut-il par exemple appliquer des quotas de femmes dans les postes à responsabilité? Autant de questions que nous aborderons ce soir avec nos trois invités. Le débat du jour, émission préparée par Sigrid Azeroual, réalisée par Laurent Philippot, rédaction en chef Patrick Adam.
RFI.
Insaf El Hassimi, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez la bienvenue, vous êtes la porte-parole du mouvement Les Glorieuses en quelques mots.
C'est une newsletter féministe qui aborde des sujets de société tels que la politique, l'économie ou encore la culture.
Vous êtes aussi la créatrice de la plateforme numérique Ma Juste Valeur. Vous êtes aussi juriste financier, experte en égalité salariale et en négociation de rémunération. C'est ce que nous verrons aussi. En face de vous, Marie-Laure Méolence, bonsoir.
Bonsoir Adrien.
Merci d'être là. Avocate en droit du travail au sein du cabinet Victoire Avocat et fondatrice du podcast Droit Devant. Et puis au téléphone avec nous ce soir, Françoise Milewski, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir répondu présente, économiste à l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques, et au sein du programme de recherche en enseignement des savoirs sur le genre. Merci à toutes les trois d'être ici présentes. Première question, Insaf El Hassimi, quand vous dites les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année, faut-il faire de la provocation pour faire avancer ces idées?
Je ne pense pas qu'il faille faire de la provocation. En revanche, présenter les faits de manière percutante pour éveiller les consciences et appeler à l'action, oui.
Alors, quand vous dites gratuitement, vous dites quoi exactement?
En fait, quand on dit gratuitement, ça veut dire qu'à partir du 3 novembre à 9h22 et jusqu'à la fin de l'année, les femmes cessent d'être rémunérées pour leur travail.
À travail égal avec les hommes?
Absolument.
À partir de quelles données vous avez calculé ce manque à gagner pour les femmes françaises?
Nous nous sommes basés sur les données qui ont été publiées par l'Institut de statistique de l'Eurostat, donc l'Institut de statistique de l'Union européenne, qui calcule l'écart de salaire entre les hommes et les femmes à 16,5%.
Marie-Laure Méolence, comment expliquez-vous cette discrimination? La France ne s'est-elle pas détachée du patriarcat?
C'est encore effectivement une société très patriarcale, sexiste aussi, et ça a été constaté par le législateur qui a pris des mesures. La loi Copé-Zimmermann a 10 ans maintenant, donc c'était les premières mesures qui sont intervenues en faveur des quotas finalement, d'implantation définitive des femmes au sein des conseils d'administration. Avec un seuil qui était fixé à l'époque à 40%, qu'il est toujours. Et aujourd'hui, on a cet index égalité qui est intervenu aussi récemment, qui est un outil utile pour décliner plus durablement encore la présence des femmes au sein des entreprises.
Françoise Milewski, vous travaillez sur le sujet depuis des années. Des lois ont été promulguées pour lutter contre cette discrimination et rien ne bouge vraiment. Comment l'expliquez-vous?
Non, rien ne bouge vraiment. Il y a beaucoup de lois, en particulier depuis 1972, on dit à travail égal, salaire égal, c'est une loi. Et je voudrais même ajouter le fait que les données d'Eurostat concernent une comparaison sur les plein temps. Si on prend la totalité de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, c'est au-delà de 17%, ça atteint presque 25%. Donc, ce que touchent les femmes et ce que touchent les hommes, il y a 25% d'écart. Alors, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a d'abord un écart de temps de travail, parce que ce sont les femmes qui travaillent. Un certain nombre de femmes travaillent à temps partiel. Le temps partiel, c'est essentiellement une affaire de femmes. Donc, c'est la première raison qui fait qu'il y a un écart de salaire. Et puis, la deuxième grande raison, c'est le fait que les femmes et les hommes ne travaillent ni avec les mêmes métiers, ni dans les mêmes secteurs. Et malheureusement pour les femmes, ce sont des secteurs où les revenus sont dévalorisés. On l'a bien vu au moment de la crise sanitaire. Tous les métiers du soin, tous les métiers de l'attention aux autres sont sous-payés par rapport à un certain nombre de métiers d'hommes. Et puis enfin, il y a une petite partie qui est ce qu'on appelle la discrimination pure, qui est de l'ordre de 7 à 8 % qui est à travail égal, le salaire n'est pas égal. Mais cela n'est qu'une petite partie, et quand on parle d'écart de salaire, il faut vraiment prendre la totalité et essayer de résorber la totalité, parce qu'en fait, le travail n'est pas égal pour les hommes et les femmes. On voit bien que quand une femme et un homme rentrent à même niveau de qualification dans une entreprise, et bien quelques années après, ils n'ont plus le même salaire parce qu'ils n'ont pas fait
alors
la
sur
même
ce
carrière
dernier
et
point,
une pénalité de maternité.
Juste pour partager la parole, comment vous l'expliquez? On entre dans la même société, on a simplement le sexe qui est différent et quelques années plus tard, on n'a pas le même salaire. Comment l'expliquez-vous, INSAF El Hassimi?
Alors, je pense que la première explication, c'est peut prendre racine dans les sacro-saintes grilles de salaire. En fait, quand on est jeune étudiant et jeune diplômé, du coup, et qu'on arrive sur le marché du travail, on a cette fausse croyance que notre valeur en tant que professionnel est déterminée par l'entreprise. Donc déjà, de base, on abandonne notre pouvoir et on pense que cette valeur-là, elle est prédéfinie par les grilles de salaire. Donc, on ne négocie pas son salaire à l'entrée. Et ensuite, la véritable écart de salaire intervient à partir du moment où, et c'est là où on aperçoit le décrochage, c'est à partir du moment où il y a la première maternité chez la femme. Donc il y a ce moment d'arrêt qui est légal de 2 mois et demi, hein, donc c'est pas non plus 3 ans, mais à partir de ce moment-là, l'entreprise part du principe que la femme n'est plus intéressée, n'est plus investie et se désengage. Et donc elles n'ont pas accès aux mêmes promotions, elles n'ont pas accès au même périmètre de travail, ni de contenu de travail, ni de poste, et du coup il y a un écart de salaire qui commence à se creuser à ce moment-là et qui termine à la fin vers les écarts de salaire qu'on connaît.
Alors effectivement, il y a une responsabilité claire des entreprises dans ce constat de fait qu'on fait tous. Mais il y a aussi, je pense, un symptôme un peu de bon élève qu'on relève chez la plupart des femmes qu'on accompagne. C'est cette culture qui consiste à se dire que si finalement on travaille bien, on sera naturellement récompensé. C'est un peu ce qu'on inculque à toutes les petites filles à l'école déjà, hein, dans le système scolaire, et qu'on retrouve encore de manière très présente dans l'entreprise. On se dit que voilà... lorsque la valeur de notre travail n'est pas contestée, eh bien, on n'a pas nécessairement besoin d'aller quémander une rémunération et qu'elle va naturellement intervenir. Or, c'est un biais et ça ne se passe pas comme ça. Il y a effectivement le savoir-faire qui est une donnée importante, mais il y a aussi le faire savoir. Donc, il faut constamment valoriser ses propres compétences et faire de l'autopromotion auprès de son employeur.
Et c'est ce que vous dites aussi différemment, lutter contre le syndrome de l'imposteur.
Oui, c'est deux syndromes en fait qui sont très révélateurs dans les profils féminins. Donc cette posture de bon élève et puis ce syndrome de l'imposteur. Une femme a besoin de se sentir extrêmement légitime pour aller chercher et demander une augmentation. Elle doit considérer avec son propre prisme qu'elle est particulièrement pertinente pour entamer une démarche de ce type.
Alors moi, je suis absolument d'accord avec Marie-Laure, hein, évidemment, mais à mon sens, ce n'est qu'une jambe du problème. Quand on parle des inégalités salariales, on a tendance à se concentrer sur quelles sont les lacunes des femmes, et de les expliquer d'ailleurs. En revanche, ce qu'on oublie aussi de préciser quand on aborde ce sujet-là de manière globale, c'est que l'autre jambe du problème est la juste reconnaissance des talents féminins par les entreprises. Les entreprises tablent quelque part sur ce syndrome de l'imposteur, sur ce syndrome de la bonne élève. Les femmes, comme le disait Marie-Laure, ont tendance à être un peu scolaires dans leur démarche et elles se disent, c'est comme à l'école, si j'ai des bonnes notes, je vais être augmentée. Et il y a aussi des systèmes de gradation et de notation dans les entreprises. Et donc, elles attendent cela, mais elles le font, et les entreprises le savent d'ailleurs, quelque part, hein, elles en sont parfaitement conscientes, et c'est une manière aussi certainement de ne pas reconnaître et considérer les femmes à leur juste valeur et de ainsi laisser partir les talents qui sur un mouvement de rejet disent merci mais non merci et soit quittent le monde de l'entreprise, soit se mettent dans le freelancing.
Françoise Milewski, le problème ne viendrait-il pas aussi donc des entreprises majoritairement dirigées par des hommes en France?
Oui, bien sûr que le problème vient des entreprises, parce que je ne crois pas que ce soit fondamentalement dû aux femmes. Bien sûr, il y a un problème d'estime de soi, de confiance, de demander des augmentations, mais fondamentalement, c'est pas lié à ça. Ce qui apparaît surtout, c'est que, et ça a été dit tout à l'heure, dès la première maternité, un certain nombre d'entreprises considèrent que les femmes ne seront plus disponibles pour exercer des responsabilités et s'investir dans leur travail. Et par extension, du coup, ça concerne aussi les femmes qui n'ont pas d'enfants. Cette notion de suspicion d'enfant, c'est quelque chose d'abominable parce qu'on pénalise des femmes qui pourtant sont investies dans leur travail, qui souhaitent faire une carrière et développer leurs compétences, et elles sont pénalisées par cette espèce de croyance et de stéréotype qu'à partir du moment où on a des enfants, on n'est plus aussi efficace, ou on n'a pas le temps, ou on n'est pas disponible pour des urgences. Or, la réalité est tout autre. Donc, il y a toute une action à faire dans les entreprises pour que ces comportements stéréotypés au niveau des directions d'entreprise et des DRH soient modifiés.
Alors, vous accompagnez, Marie-Laure Méolens, des femmes pour les aider, notamment à négocier, leur apprendre à assumer leurs valeurs et à les juger sur leur juste valeur. Dites-nous les principaux conseils que vous leur livrez.
Alors effectivement, quand les femmes viennent me voir au cabinet, eh bien c'est souvent parce qu'elles ont été confrontées à un refus de la part de leur entreprise de revaloriser leur salaire. Donc moi, j'arrive à ce moment-là où, confrontées à un refus, elles ont décidé de ne pas se laisser faire et elles décident bien souvent de porter leur action devant le conseil de prud'homme quand elles ont malheureusement fait le constat qu'il n'y avait pas de possibilité d'obtenir une décision positive de la part de leur hiérarchie. Donc, à ce moment-là, tout un tas d'options sont envisageables. Mais celle qui me semble la plus pertinente, c'est d'abord de se mettre dans une démarche où on va décider de compiler des éléments qui laissent penser que cette discrimination existe.
Quels sont ces éléments ?
Alors ces éléments, ben très simplement, on a ces objections qui sont portées à nos oreilles un très grand nombre de fois et qui consistent à dire, ben en réalité, c'est très dur d'obtenir des bulletins de paie nos homologues masculins qui viendraient établir cette discrimination. Mais c'est parce qu'en fait, elles ignorent les ressources qui existent, parce que les bulletins de paie, c'est pas la seule manière de prouver qu'on est discriminé. Donc, soit on a la chance d'obtenir ces fiches de paye, mais c'est pas la majorité des cas. Soit, eh bien, on va pouvoir se mettre en relation avec des anciens salariés, des gens qui ont quitté l'entreprise, qui ne sont plus soumises à peut-être une peur des représailles, de diffuser de l'information sur le montant de leur rémunération et qui vont parler de manière plus libre. Donc, se mettre en relation avec des gens qui étaient leurs homologues et qui ont aujourd'hui quitté les effectifs pour obtenir des attestations, pour renforcer leur dossier.
Et dans le but de demander à son employeur d'appliquer la loi.
Exactement, exactement. On peut aussi envisager que les femmes se mettent en relation avec, par exemple, les délégués syndicaux qui sont dans les entreprises parfois bien implantées et qui, chaque année, sont chargés de mener des négociations annuelles obligatoires avec la direction et qui donc ont connaissance de la rémunération moyenne qui est allouée aux catégories professionnelles qui existent dans l'entreprise. Donc ça peut être ça aussi, la piste de se rapprocher des délégués syndicaux. Ça peut être aussi d'obtenir des informations, même verbales, de la part d'un collègue de travail qui est payé de façon plus favorable, parce que même ces informations verbales vont constituer des faisceaux, tout un ensemble d'indices qui permettront de monter un dossier, soit parce qu'on décide de parler à son employeur avec des éléments factuels à l'appui, soit parce qu'on décide de se tourner vers les tribunaux, donc en l'occurrence vers le Conseil de prud'homme, si jamais on n'arrive pas amiablement à dénouer le sujet.
Insa Felassimi.
Alors moi je suis complètement d'accord avec Marie-Laure, mais en fait c'est un constat qu'on observe, et ce qui est dommage en fait, c'est que la plupart du temps en fait les femmes elles sont tellement dans l'attente de cette reconnaissance là par la rémunération, cette considération là, qu'en réalité elles attendent que le conflit se cristallise pour se rapprocher d'une avocate, pour pouvoir aller essayer de trouver des éléments factuels qui prouvent la discrimination. Et c'est en ça que moi ce que je leur conseille avant tout, c'est ne laissez pas ce tsunami émotionnel vraiment vous emporter. Dans un premier temps, ce qui est très important, avant toute chose, c'est de ne pas attendre que le conflit se cristallise et au contraire, aller découvrir sa juste valeur et la juste valeur de son profil sur le marché de l'emploi et essayer d'aborder la discussion de manière rationnelle et factuelle et essayer de désémotionnaliser tout ce sujet-là pour pouvoir en parler dans un premier temps avec sa hiérarchie et demander pour obtenir une juste rémunération. C'est en ça que moi, j'essaie de les accompagner par ailleurs.
Et pour vous, Françoise Milewski, pour lutter contre ces inégalités, quels conseils donneriez-vous ?
Oui, bien sûr, le même. le même, mais aussi beaucoup d'autres. Je crois que il y a, on peut considérer dans une entreprise, regardez quel est le salaire d'un homme et d'une femme à l'embauche et quelques années après, et engager des actions pour revaloriser le salaire des femmes si un retard a été pris avec l'évolution de carrière des hommes. Mais je crois qu'il y a aussi dans notre société tout un travail à faire, et qui a, ça a été révélé par la crise sanitaire de façon massive, la question de la sous-valorisation des bas salaires et des métiers exercés principalement par les femmes, notamment dans tous les métiers du soin, de la santé, de l'attention aux autres. Et il y a un énorme travail à faire, parce que on considère que notamment des femmes qui s'occupent des autres, bah, c'est inné, donc il y a tout un problème de reconnaissance de la qualification. Je disais tout à l'heure que les femmes ne travaillent pas avec les mêmes métiers dans les mêmes secteurs, et là, on a un problème de reconnaissance de l'utilité sociale d'un certain nombre de métiers et de revalorisation des bas salaires, et notamment de négociation de grilles dans les entreprises pour reconnaître des compétences qui ne sont pas reconnues.
Ironie du sort, là, dans la question qui nous anime ce soir, c'est qu'en France, les femmes sont mieux diplômées que les hommes.
Oui, elles sont mieux diplômées, pas seulement en France, c'est le vrai également en Europe. Les femmes réussissent mieux au bac, elles sortent davantage diplômées de l'université. Et pourtant, elles rentrent en général à peu près sans un énorme écart de salaire, mais très vite, la différenciation de salaire se fait. Et surtout, dans la mesure où elles travaillent surtout dans des secteurs de services pour lesquels l'historique de la négociation salariale entre les syndicats, les représentants du personnel, la direction ont été moins développés que dans l'industrie, eh bien, il y a moins d'échelons, il y a moins de reconnaissance de qualification, et donc du coup, là on a un problème qui est important parce que leurs salaires ne sont pas valorisés au même niveau. Donc on a ce paradoxe effectivement, que les filles réussissent mieux à l'école, à l'université, mais les écarts de salaire vont très vite, et ça il y a beaucoup d'études qui le montrent, aussi bien de l'INSEE que du Centre d'études et qualifications, qui montrent que, y compris des femmes très diplômées, des femmes cadres qui sortent à bac plus 4 ou bac plus 5, elles rentrent à peu près sur le même salaire, mais très vite, au bout de 4-5 ans, l'écart de salaire s'est opéré.
INSAF, elle a signé, voulait réagir.
Oui, moi je pense qu'il est aussi important de rappeler que le monde du travail et le monde de l'entreprise, et ça c'est quelque chose de très important, c'est un monde qui a été créé par les hommes, pour les hommes et avec les hommes. Au départ, les femmes n'ont pas été prises en compte dans l'équation, puisque leur rôle était de rester au foyer et de s'occuper de toute la logistique du foyer. Quand elles sont entrées sur le marché du travail, évidemment, la société a évolué plus rapidement que le monde de l'entreprise. C'est pour ça qu'il est important de conduire le changement et vraiment d'avoir de véritables actions des acteurs et des actrices du marché du travail. Parce qu'en réalité, le monde de l'entreprise n'est pas un monde qui prend en compte la spécificité des carrières féminines et toutes les spécificités féminines pour pouvoir faire en sorte de pouvoir évoluer aussi rapidement que la société. Par ailleurs, et pour terminer, je voudrais mettre le point sur ce que disait Françoise par rapport à la revalorisation des salaires des métiers qui sont surreprésentés par les femmes. La question que je pose ici, c'est quel est notre contrat social et qu'est-ce que nous voulons pour notre société ? Est-ce que nous voulons une société dans laquelle la contribution féminine de manière générale est dévalorisée ? Aujourd'hui, c'est le cas.
Le débat du jour sur RFI. Adrien Delgrange.
Les inégalités salariales entre hommes et femmes, venons-en. Tentons d'évoquer les différentes solutions, les moyens de combattre ces inégalités. Gardez la parole, INSAF. Elle a signé les glorieuses que vous représentez ici. Vous avez soumis toute une série de propositions. En France, nous sommes à l'aube donc de la campagne électorale pour l'élection présidentielle et vous vous adressez aux différents candidats.
Oui, absolument. L'idée, c'est vraiment d'éveiller les consciences et de faire en sorte qu'on ait une vraie prise d'action. Aujourd'hui, nos trois propositions sont les suivantes. Le principe des gains conditionnalité, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est conditionner tous les marchés publics, les subventions et les prêts garantis par l'État. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui en ont bénéficié suite à la crise Covid, au fait qu'elles respectent l'égalité dans leur structure. La deuxième, c'est la revalorisation des salaires dans des métiers qui sont largement surreprésentés par les femmes. Et enfin, la troisième, c'est avoir un congé parentalité, donc maternité plus paternité, qui serait d'un an versus 2 mois et demi uniquement pour les femmes et 28 jours pour les hommes.
Est-ce le plan politique qui doit résoudre l'équation? Je m'adresse à vous, Marie-Laure Méolençon.
Ben effectivement, avec l'échéance présidentielle, le quinquennat d'Emmanuel Macron était très marqué par ces annonces qui étaient quand même faites avec une promesse de parvenir à plus d'égalité dans cette société. Donc après, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe quand même des mécanismes judiciaires qui sont extrêmement efficaces pour faire valoir ces droits. Donc il ne faut pas rester... sur une frustration d'inégalité salariale, il faut, une fois qu'on l'a constaté et une fois qu'on a essayé d'entamer une médiation et qu'on n'est pas parvenu à obtenir gain de cause, se dire que tout un tas d'acteurs existent, que ce soit donc le comité social et économique, l'inspection du travail, le défenseur des droits aussi, l'ancienne ALDE dont on n'a pas parlé mais qui intervient régulièrement dans ce type de problématique. C'est une saisine gratuite de ce défenseur des droits qui va permettre de formuler un certain nombre de recommandations auprès de l'employeur ou même des injonctions, initier des médiations. Donc il a tout un tas de pouvoirs. Il peut aussi intervenir dans les procès prud'homaux. Donc il faut pas hésiter à s'informer sur ses droits. On a aussi la possibilité, quand on est salarié, de demander à un juge prud'homal à ce que l'employeur soit condamné à produire un certain nombre de documents qui permettront d'établir une discrimination éventuelle. Donc il ne faut pas hésiter à s'informer sur ses droits, à activer éventuellement une action judiciaire si on est confronté à une inertie qu'on juge coupable. Et puis... prendre conseil aussi auprès des gens qui aident à la négociation de la rémunération, comme INSAF, par exemple.
Moi, j'appuie particulièrement ce que dit Marie-Laure. Hein. Il ne faut pas hésiter à aller s'informer sur les moyens de droit qui sont à notre disposition et pas attendre que le conflit se cristallise et se retrouver un peu coincé parce qu'on n'a pas trouvé des preuves factuelles avant pour pouvoir les appuyer à notre dossier, pour pouvoir vraiment plaider sa cause justement auprès de son entreprise. La difficulté, c'est que la majeure partie du temps, on oublie. Les femmes abandonnent leur pouvoir. Elles ont tellement confiance en leur employeur qu'elles sont persuadées qu'il n'y a pas de raison qu'ils les sous-considèrent ou qu'ils les sous-rémunèrent. Alors que, malheureusement, il faut se préparer au pire pour préparer le meilleur aussi.
Est-ce qu'on pourrait imaginer remonter aux racines du problème et réformer le système éducatif français? Autrement dit, se pencher sur la question dès le plus jeune âge, Françoise Milewski.
Oui, je voulais, à toutes les mesures qui ont été citées, que... j'approuve évidemment, ajouter deux petites choses. Dire que, en ce qui concerne les lois sur l'égalité salariale, on a quand même eu un progrès qui a été fait il y a quelques années, c'est que désormais, c'est une loi qui a une sanction. Avant, on avait des lois où on disait à travail égal, salaire égal, mais sans sanction. Donc, il ne se passait rien. Maintenant, les entreprises qui ne négocient pas des plans d'égalité salariale et professionnelle sont soumises à sanctions financières, et donc, c'est une incitation. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est qu'elles sont contraintes de publier l'état des inégalités dans leurs entreprises. Et quand
elles
on
le
montre
font.
Les choses, c'est plus facile. Elles sont contraintes de le faire. Donc un certain nombre le font, elles ne le font pas toutes, mais elles sont obligées par la loi de le faire, sous peine de pénalités financières.
Marie-Laure Méolençon, juste.
Oui. Oui, alors effectivement, je pense que là, on est en train de parler de l'index égalité. Effectivement, c'est une obligation.
Non, même avant.
Oui, alors.
Même avant l'index.
Avant l'index, mais c'est vrai que les chiffres là relatifs à l'index, cette obligation existe, mais les pénalités sont prévues à horizon 3 ans. Donc voilà, oui. On peut avoir effectivement des pénalités financières qui peuvent atteindre 1% de la masse salariale. Donc on voit bien qu'il y a une contrainte, hein, clairement, mais on n'est pas encore arrivé à l'échéance de ces 3 ans au terme desquels la pénalité financière sera due. Donc pour l'instant, voilà, on en est là, quoi. C'est le début du dispositif en tout cas.
Et pour rebondir sur votre question, qu'est-ce qui se passe au plan politique? Je crois que pour combattre les inégalités salariales, il faut combattre toutes les inégalités et ce qui explique les inégalités salariales. Et vous mentionniez le fait qu'on intervienne dès la petite enfance, c'est effectivement très important parce que, par exemple, pour faire en sorte que l'orientation scolaire et professionnelle ne conduise pas les filles et les garçons vers des filières différentes, eh bien, il faut combattre ces stéréotypes dès l'école pour faire en sorte que chaque enfant, qu'il soit fille ou garçon, et chaque jeune ensuite, homme ou femme, se projette dans des métiers qui soient des métiers équivalents. Et donc ça, c'est une partie très importante pour essayer de surmonter le fait que certains métiers sont majoritairement exercés par des femmes parce qu'elles seraient plus compétentes pour le faire, et certains métiers, les métiers d'ingénieurs, sont majoritairement exercés par des hommes. Et bon, c'est ça qu'il faut combattre, et c'est toute l'éducation qui est en cause.
Et pour élargir aussi, on peut parler donc d'autres inégalités. Là, on parlait celles liées au revenu, mais il y a aussi celles liées au patrimoine, à l'égalité des chances, plus largement, INSAF, elle a signé.
Oui, on observe qu'il y a vraiment un décalage quand il s'agit du patrimoine, de tout ce qui est éducation financière. Notre société est vraiment très imprégnée de biais de genre, qui fait que les femmes sont vraiment mises à côté et mises de côté plutôt lorsqu'il s'agit de parler d'argent. Et c'est ça un petit peu la difficulté. Je pense qu'il faut sensibiliser les femmes au fait qu'elles ont droit de se saisir des sujets d'argent, elles ont droit de parler argent, elles doivent s'éduquer financièrement. Et pour en revenir par rapport à l'éducation des femmes et au fait qu'on devrait les éduquer un peu plus dès la petite enfance, je pense qu'on dit souvent qu'il faut éduquer les femmes comme les hommes. Moi, je pense qu'il faudrait aussi essayer d'éduquer les petits garçons comme on éduque les petites filles. Ça aussi, ça serait quelque chose de bien. Et puis, par ailleurs, pour terminer là-dessus, je dirais que ce qui est un petit peu dommage dans notre société, c'est que les écoles de commerce, les universités et tout l'enseignement supérieur de manière générale met de côté toutes les soft skills qu'on appelle pour pouvoir naviguer dans le monde de l'entreprise et mettre en place des cours de négociation de rémunération pour apprendre aux femmes à aller découvrir leur juste valeur sur le marché de l'emploi. Quelle est la valeur de mon profil? Comment est-ce que je l'assume? Comment est-ce que je la vocalise ensuite pour qu'elle soit obtenue? Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas encore dans l'enseignement supérieur.
Imposer un quota de 40% des femmes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises françaises. Bonne ou mauvaise idée, Françoise Milewski?
Bonne idée, je pense que c'est une bonne idée parce que ça consiste à formaliser des quotas face aux quotas invisibles des hommes, parce que c'est comme ça qu'on peut expliquer le passé. Pourquoi est-ce que l'accès aux fonctions de direction ont été de fait réservés aux hommes? Parce que c'est une histoire de réseau, c'est une histoire de connaissances, c'est une histoire d'habitude, et on pouvait espérer que les choses changent progressivement. Elles n'ont pas changé et elles changent par des mesures contraignantes. Donc je crois qu'à certains moments, il faut effectivement mettre en œuvre des mesures contraignantes pour changer les choses, et ça n'est pas une rupture d'égalité ou une rupture d'universalisme de considérer que mettre en place des mesures favorables aux populations qui sont discriminées, ça permettra de modifier les choses, et ça a commencé à le permettre.
La politique des quotas, Marie-Laure Méolens?
Oui, eh ben on voit que ça fonctionne très bien, la politique des quotas, parce que avec cette loi Copé-Zimmermann, on en était en 2013 à 26% des femmes dans les conseils d'administration, et aujourd'hui, enfin en 2019 en tout cas, on en était à 43,6%. Donc ça a extrêmement bien fonctionné. Les dernières actualités, c'est l'Assemblée nationale qui a aussi voté des quotas pour encore plus d'insertion des femmes, alors cette fois chez les cadres dirigeants, puisque cette proposition de loi qui a été votée par le Sénat, eh bien prévoit cette fois 30% chez les cadres dirigeants de femmes à horizon 2027 et 40% à horizon 2030. Donc ce sont des mesures, on aimerait bien pouvoir se passer des quotas en réalité, mais ça reste malgré tout une société qui a beaucoup de mal à se mouvoir, et donc on est obligé d'en passer par là.
Et vous, en guise de conclusion?
Oui, je dirais que tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc il est très important de pouvoir mesurer l'insertion des femmes sur les postes qui sont à direction. Et enfin, j'aimerais aussi préciser que aujourd'hui on parle des inégalités salariales, mais il faut aussi parler des inégalités salariales qui sont vécues par les femmes racisées, et qui sont à l'intersectionnalité de plusieurs choses, et qui, elles, subissent ces inégalités également de plein fouet. En tout cas, on y pense beaucoup.
La France de 2021. Merci beaucoup à toutes les trois. INSAF, elle a signé, porte-parole du mouvement Les Glorieuses, Marie-Laure Méolens, avocate en droit du travail, et Françoise Milewski, économiste à l'OFCE. J'indiquerai également, vous êtes la fondatrice du podcast Droit Devant, et vous, créatrice de la plateforme Ma Juste Valeur. Ainsi se referme cette émission réalisée ce soir par Laurent Philippot. Merci à lui, rédaction en chef Patrick Adam. Le tout était préparé par Sigrid Azerwal. Merci de rester à l'écoute des RFI, l'information revient.
Le coq chante.